Une avance trop aisée est presque aussi épuisante pour une troupe qu'une retraite. Faute de trouver devant soi une résistance qui permît de s'arrêter, fût-ce une journée, et de reprendre haleine, l'armée de France marchait sans relâche, depuis plus de 3 semaines, depuis 25 jours exactement. Le grand ost, bannière, armure, goujat, archer, chariot, forge, cuisine, et puis les marchands et les bordeliers à la suite, s'étiraient sur plus d'une lieue. Les chevaux blessaient au garrot, et il ne se passait pas de quart d'heure sans que l'un ne se déférât. Beaucoup de chevaliers avaient dû renoncer à porter leurs cuirasses qui, la chaleur aidant, leur provoquaient plaies et furoncles aux jointures. La piétaille traînait ses lourds souliers cloutés. En plus, les belles prunes noires d'Agen, qui semblaient mûres sur les arbres, avaient purgé avec violence les soldats assoiffés et chapardeurs. On en voyait qui quittaient la colonne à tout instant pour aller baisser leurs chausses le long du chemin. Le connétable gaucher de Châtillon somnolait le plus qu'il pouvait à cheval. Près de 50 ans de métier des armes et 8 guerres ou campagnes lui en avaient donné l'entraînement. « Je vais dormir un petit », annonçait-il à ses 2 écuyers. Ceux-ci, réglant le pas de leur monture, venaient se placer de part et d'autre du connétable de façon à bien l'encadrer pour le cas où il aurait glissé de côté. Et le vieux chef, les reins appuyés au trousquin, ronflait dans son aume. Robert d'Artois suait sans maigrir et répandait à 20 pas une odeur de fauve. Il avait fait amitié avec un des Anglais qui suivait Mortimer, ce long baron de Maltraverse qui ressemblait à un cheval, et il lui avait même offert de marcher dans sa bannière parce que l'autre était fort joueur et toujours prêt aux haltes à manier le cornet de dés. Charles de Valois ne décolérait pas. Entouré de son fils d'Alençon, de son neveu d'Evreux, des 2 maréchaux Mathieu de Try et Jean de Barne, et de son cousin Alphonse d'Espagne, il s'emportait contre tout, contre le climat intolérable, contre la touffeur des nuits et la fournaise des jours, contre les mouches, contre la nourriture trop grasse. Le vin qu'on lui servait n'était qu'une piquette de manant. Pourtant, on était dans un pays de crus fameux. Où donc ces gens-là cachaient-ils leurs bonnes barriques? Les œufs avaient mauvais goût, le lait était aigre. Monseigneur de Valois se réveillait parfois avec des nausées, et depuis quelques jours il éprouvait dans la poitrine une douleur sournoise qui l'inquiétait. Et puis, la piétaille n'avançait pas. Non plus que les grosses bouches à poudre fournies par les Italiens et dont les patins de bois semblaient coller au chemin. Ah, si l'on avait pu faire la guerre seulement avec la chevalerie!
« Il semble que je sois voué au soleil !» disait Valois. « Ma première campagne, quand j'avais 15 ans, je l'ai faite ainsi, mon cousin Alphonse, par une chaleur brûlante, dans votre Aragon pelé, dont je fus un moment roi, contre votre grand-père. »
Il s'adressait à Alphonse d'Espagne, héritier du trône d'Aragon, lui rappelant sans ménagement les luttes qui avaient divisé leur famille. Mais il pouvait se le permettre, car Alphonse était bien débonnaire, prêt à tout accepter pour contenter chacun, prêt à partir pour la croisade puisqu'on en avait prié et à combattre les Anglais pour s'entraîner à la croisade.
« Ah, la prise de Gérone !» continuait Valois. « Je m'en souviendrai toujours. Quel bouilloire! Le cardinal de Cholet, n'ayant pas de couronne sous la main pour mon sacre, me coiffa de son chapeau. J'ai étouffé sous ce grand feutre rouge. Ouais, j'avais 15 ans. Mon noble père, le roi Philippe le Hardy, mourut à Perpignan des fièvres qu'il avait prises là-bas. »
Il s'était assombri en parlant de son père. Il pensait que celui-ci était mort à 40 ans. Son frère aîné Philippe le Bel avait trépassé à 46 ans. Et son demi-frère, Louis d'Evreux, à 43. Lui-même en avait maintenant 54 depuis mars. Il avait montré qu'il était le plus robuste de la famille. Mais combien de temps encore la Providence lui accorderait-elle?
Et la Campanie, et la Romagne, et la Toscane! D'autres pays où il fait chaud, poursuivit-il. Traverser toute l'Italie depuis Naples, en pleine saison de soleil jusqu'à Sienne et Florence, pour en chasser les gibelins comme je l'ai fait il y a, oh laissez-moi compter, 1301, 23 ans, ah. Et ici même en Guyenne, dans l'année 94, c'était aussi l'été, toujours l'été. Dites-moi, Charles, il fera pire chaleur encore à la croisade, lança ironiquement Robert d'Artois. Vous nous voyez chevauchant contre le Soudan d'Égypte? Et là-bas, il paraît que la vigne est petite culture. On va lécher le sable.
Oh, la croisade ? La croisade, répondit Valois avec une grande lassitude irritée. Sait-on même si elle partira, la croisade, avec toutes les traverses qu'on me met ? Il est beau de vouer sa vie au service des royaumes et de l'Église, mais on finit par être là d'user toujours ses forces pour des ingrats.
Les ingrats, c'était le pape Jean XXII qui rechignait à accorder les subsides, comme si vraiment il avait voulu décourager l'expédition.
C'était surtout le roi Charles IV qui non seulement différait toujours d'envoyer la commission de lieutenant à Charles de Valois, au point que cela en devenait offensant, mais en plus venait de profiter de l'éloignement de ce dernier pour se porter lui-même candidat à l'Empire. Et le pape, naturellement, avait accordé soutien officiel à cette candidature. Ainsi, toute la belle machination montée par Valois avec Léopold de Habsbourg s'écroulait. On le tenait pour niais, le sire Charles le Bel, et de fait il l'était, mais il s'entendait assez bien au coup fourré. Valois avait reçu la nouvelle le jour même, 25e d'août. Mauvaise Saint-Louis en vérité. Il était de si méchante humeur et si occupé à chasser les mouches de son visage qu'il en oubliait de regarder le paysage. Il ne vit l'aréole que lorsqu'on fut devant, à 4 ou 5 portées d'arbalète.